CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir que faire face aux défis de nos enfants. C'est notre thème du jour et nous allons en parler avec Nadine et Frank. Hello vous deux.
Hello Yveline.
Hello.
Ça va?
Ça va très très bien.
Bien.
Vous êtes beaux tous les deux, là, avec vos petits t-shirts et tout.
On n'a pas essayé, forcément.
Non, mais...
C'est naturel.
On est beaux naturellement. Je ne suis pas sûre que tout est naturel, Nadine, mais nous en parlerons pas.
Surtout de ton côté. Hein.
J'ai payé pour ça, moi. Merci beaucoup.
Les ongles sont naturels. Non, pas les ongles.
On peut admirer les beaux ongles de Nadine.
Merci beaucoup. Et moi-même, je vais... travailler sur mon vieil homme et ne me taire, ne pas dire ce que je pense en ce moment.
C'est marrant, quand Nadine et Frank sont ensemble, c'est toujours un petit peu électrique sur ce plateau.
Comment ça que ça fait ça, Yveline?
Je sais pas.
Frank, dis, qu'est-ce que
t'aimes bien piquer
c'est
Nadine.
C'est même pour moi qui est parti tout ça, là. C'est Yveline.
Ouais, mec, de manière générale, t'aimes bien piquer Nadine. Faut dire ce qui est.
Ouais, c'est facile. C'est agréable.
C'est
agréable pour la chair. C'est...
Frank, il aime bien parce qu'il aime bien quand on réagit.
Comme des enfants.
Exactement. Bon, c'est pas le thème du jour, hein, mais vous voyez qu'on est des grands enfants et malgré tout, on est parents, on a des enfants. Et puis, il peut y avoir des défis, c'est peut-être votre cas. Alors, toutes sortes de défis, hein, ça peut être des enfants en bas âge, ça peut être des enfants plus grands. Et quand on dit défi, c'est vraiment large. Ça peut être bien sûr éventuellement une maladie, mais ça peut être juste des difficultés de caractère, ça peut être des problèmes à l'école, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être toutes sortes de difficultés. On va tenter de vous donner des petites clés pour essayer de mieux gérer ces moments. Et Frank va répondre à une question aujourd'hui.
Oui, il aurait fallu que j'aie en fait une rubrique famille au complet.
Ah, carrément.
Ah ben oui.
T'as vu, il fait comme Annabelle.
Donc,
il fait une rubrique famille, Nadine.
J'entends
leur cri.
J'entends ton cri.
C'est pas un cri, c'est juste un fait.
Oui.
Une telle question. Ça va me prendre
du temps. Mais c'est quoi la question?
Evelyne, faut en parler.
Ah ben oui, faut en parler.
Et il y a eu une question d'une personne.
D'Alexandra, du Canada.
C'est ça.
Qui nous a demandé comment puis-je aider mon enfant en échec scolaire. Et Frank va devoir y répondre en 5 minutes, mais il aurait aimé 12 minutes, vous l'aurez compris.
Eh oui.
Bah, moi, comme je l'ai dit à Annabelle la dernière fois, tu peux faire un effleurage et on entend le cri de vos cœurs et il y aura peut-être une rubrique famille qui va jaillir à ce sujet. On en avait fait une à l'époque, il y a longtemps, avec Mathilde
et sa fille
Floramé. Oui,
ah ouais, c'est vrai.
Oui, ouais. D'ailleurs, on l'a retrouvée sur notre replay sur mcitv.com. Vous pouvez retrouver l'émission, c'était une belle rubrique famille, mais c'est...
Là, je vais avoir fait un passeur, j'ai une question, et je ne crois pas me répéter dans une rubrique famille.
Non, Frank ne va pas se répéter, ben voilà. Bah vous prendrez ce que vous pourrez prendre, apparemment nous ne tirons rien de plus pour une rubrique famille. En tout cas, on va enchaîner parce que cette introduction est interminable. Nadine, on a un invité sur Zoom aujourd'hui.
Oui, dans Zoom, on a un
invité. Quelqu'un de connu.
Ah, on a parlé de Mathilde, un autre visage familier. Jonathan Berceau viendra nous présenter son livre « La bonne Samaritaine ».
Exact, donc il sera en visioconférence avec nous. Et ça va faire plaisir de l'avoir de nouveau sur le plateau, ça fait longtemps. Donc on commence tout de suite cette émission après une introduction interminable avec la pensée du jour.
J'ai intitulé ma rubrique « Reçois la stratégie pour ton enfant ». Reçois ta stratégie pour ton enfant parce que quand on parle des défis de nos enfants, que faire face aux défis de nos enfants, je crois qu'on peut recevoir chacun d'entre nous une stratégie divine, une stratégie vraiment pointue, une stratégie exacte par rapport à nos enfants. Être un parent, c'est précieux. C'est le rôle le plus précieux qu'on peut avoir au-delà de nos titres, de notre carrière, de tout ce qu'on peut faire. C'est la chose la plus importante que d'être un parent. Mais ça vient aussi avec son lot de défis, ça vient avec son lot de challenges. Quand on passe le petit bébé qui était tout mignon, la petite fille de 5 ans qui mettait sa petite belle robe rose avec des boucles, à un moment donné, elle devient une ado. À un moment donné, il y a d'autres choses qui s'enclenchent. Il y a des défis que l'enfant fait face. Et des fois, pour certains d'entre vous, peut-être c'est des défis dès la naissance. C'est peut-être des défis même dans l'utérus, dans l'embryon. Déjà, l'enfant avait peut-être des problèmes de santé. L'enfant avait des défis à la naissance, peut-être un accouchement difficile, des défis de santé, des défis d'adaptation scolaire. Plein de choses qu'un enfant peut vivre. Et en tant que parent, Dieu nous équipe en fait pour faire face à ces défis. Et Dieu nous équipe aussi ici pour nous donner une victoire. Alors, que faire face aux difficultés de nos enfants? Je vous propose 3 conseils par rapport à cela. La première chose, c'est de comprendre que notre enfant est unique, de reconnaître l'unicité de notre enfant. Parce que si on a plusieurs enfants, on peut être tenté d'appliquer la même technique avec l'enfant qui a des défis par rapport à parce que ça a marché avec son frère, parce que ben, l'enfant de ma voisine, ça a marché, moi, j'ai été élevée comme ça, etc., etc. Mais parce que notre enfant est unique, parce que Dieu l'a créé, il est unique, il a aussi une stratégie unique par rapport à cet enfant-là. Et ce qui a fonctionné avec un autre enfant ne fonctionnera pas d'office avec le vôtre. Et c'est important de reconnaître cette unicité. Ça va vous permettre, en fait, de vous dire « je dois avoir une stratégie unique par rapport à cet enfant-là ». La deuxième des choses, c'est qu'il faut aimer notre enfant. Et vous dites ben, « moi, j'aime déjà mon enfant. Je sais que vous aimez votre enfant ». Mais lorsque notre enfant passe par des difficultés, il faut vraiment avoir cet amour qui est encore plus grand, cet amour que seulement le Saint-Esprit peut nous mettre dans notre cœur. Et dans 1 Corinthiens 13, au verset 4 à 7, vous connaissez ce verset probablement, qui parle de l'amour. Et lorsque notre enfant a des défis, ce verset devient encore plus fort, je crois. Parce que le verset va dire que l'amour, il est patient, il est plein de bonté, il ne s'irrite pas. Oui, il ne faudra pas s'irriter devant les défis de votre enfant. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Et ça prendra cet amour qui va vouloir rattraper votre enfant, même s'il a désobéi, même si elle a quitté la maison, même si vous voulez le rattraper encore et encore. C'est cet amour de 1 Corinthiens 13 que vous devrez manifester. La troisième des choses, c'est qu'il faut se tourner vers le véritable parent. C'est Dieu, en fait, qui est le parent de notre enfant. Nous sommes ses intendants, ses responsables à qui Dieu a remis cet enfant, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et par la prière, il y a une conviction qui va naître dans votre cœur. Devant ce défi, vous n'êtes pas à bout, vous n'êtes pas sans solution. Dieu va vous donner une conviction, une stratégie unique que vous saurez que oui, c'est ça que je dois faire par rapport à cette situation-là. Alors vraiment, je veux vous encourager à prier pour votre enfant. Je veux vous encourager à chercher la stratégie devant les défis peut-être émotionnels, sociaux, personnel, peu importe, de comportement, de santé que votre enfant peut vivre. On a vu la tsunamite qui a couru vers Élisée. On a vu Jairus qui a couru vers Jésus. On a vu tant des parents dans la Bible qui sont retournés vers Dieu pour trouver la stratégie pour leur enfant. Et je crois que vous aussi, vous pouvez vous tourner vers Dieu. Et Dieu vous donnera une stratégie pour votre enfant. Votre enfant ne mourra pas, mais il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel.
Amen. Merci Nadine. On a besoin de sa stratégie. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et chaque enfant est unique. Chaque enfant a un fonctionnement différent. Mmh. Et ne serait-ce que dans l'éducation des enfants, moi, je me souviens, j'ai eu mon fils en premier. 2 ans plus tard, j'ai eu ma fille qui a une personnalité complètement différente de son frère. Et j'ai eu besoin, ne serait-ce que pour ça, pour savoir comment l'éduquer, parce qu'on était toujours dans des temps de crise. Elle commençait, elle avait 1 an, 2 ans, c'était difficile. J'ai dit, Saint-Esprit, dis-moi, donne-moi ta stratégie pour que je comprenne comment fonctionne ma fille. Et parce que ça... Tout ce que j'avais appliqué avec mon fils ne fonctionnait pas avec elle. Mmh. Et ça, c'est pareil dans toutes les situations. Je pense à des parents d'adolescents qui sont peut-être en crise identitaire, qui sont en train de se chercher, de savoir exactement qui ils sont, qui ne se reconnaissent plus, qui essaient de trouver leur personnalité. On a besoin vraiment d'une stratégie qui est sur mesure, en fait, pour notre enfant, pour la situation qu'on vit. C'est une maladie, c'est autre chose. Et c'est tellement vrai parce que Dieu a un plan particulier, soit pour venir toucher les cœurs, soit pour venir ramener à lui, soit pour toucher vraiment le corps, la vie de l'enfant en fonction de la situation. Et ta pensée est excellente, Nadine, merci. Notre verset du jour aujourd'hui est dans l'évangile de Jean et c'est Jésus qui a dit ça à son père. Il a dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné ». Et c'est tellement beau. Quand Jésus a dit ça, il parlait bien sûr de ses disciples. Ensuite, il dit « Si ce n'est le fils de la perdition, donc qui était Judas ». Et en fait, pourquoi on a choisi ce verset aujourd'hui? C'est parce que je crois que c'est la prière de chaque parent, de dire « Seigneur, qu'aucun de mes enfants ne se perde, Amen. Qu'aucun d'eux ne s'éloigne du chemin que tu as préparé pour eux, qu'aucun d'eux ne puisse être dérouté de la destinée que tu as pour eux. » Et Jésus a pu faire cette prière et que nous, on puisse faire cette prière, « Seigneur, qu'aucun de mes enfants ne se perde. »
Amen. Et ce verset dans Jean 17, lorsque Jésus parle, pour moi, en fait, c'est tellement puissant. Quand tu lis ça, tu vois l'amour que Jésus avait pour ses disciples. Et en fait, c'est ça, en tant que parent, lorsque nos enfants vivent des difficultés, c'est d'arriver à ce niveau de combat spirituel, ce niveau d'intercession, pour dire, Seigneur, non, 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 je ne perdrai aucun de ces enfants, aucun de mes enfants ne sera perdu. Et quand on a ce niveau, ce combat, parce que des fois, ce n'est pas juste question d'une petite stratégie. Quand je parle de la stratégie divine, ce n'est pas un truc que tu as lu dans un livre, mm-hmm. d'un tac, 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 1, 2, 3, 4. C'est quelque chose que tu vas aller chercher dans la prière et Dieu va te révéler. Mais des fois, il faut combattre, en fait. Et la société ou l'ennemi, les choses veulent nous voler nos enfants. Et lorsque notre enfant vit un défi, il est un bébé, il est un enfant, il est peut-être, il n'est pas outillé pour combattre. Et en tant que parent, on doit faire cette prière, on doit rentrer dans ce niveau d'intercession pour nos enfants, pour dire, Seigneur, je te remets cet enfant, Seigneur, je te le recommande, Seigneur, je ne perds aucun de mes enfants, je vais prier, je vais bloquer toutes les portes qui ont été ouvertes par l'ennemi, je vais faire en sorte que vraiment, je sors de ce temps de prière avec une stratégie. Amen. Une stratégie qui sera divine, une stratégie qui ne sera pas de la psychologie, une stratégie qui ne sera pas le fruit de ma réflexion, une stratégie qui va me porter, en fait. Parce que si je vais par mes propres forces, je pourrais m'épuiser. On a dit que l'amour supporte tout. Mais un enfant qui est délinquant, un enfant qui ne respecte plus, un enfant que tu ne reconnais plus son comportement, tu dis, est-ce que c'est mon enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, ben, ça prend un amour surnaturel. Et cet amour surnaturel va nous être donné dans la prière. Et lorsqu'en tant que parents, nous avons une autorité et que tu te lèves dans la prière et que tu dis, je ne perds aucun de mes enfants. Amen. Aucun de mes enfants ne sera perdu. Je crois qu'en tant que parent, lorsqu'on fait cette prière, Dieu écoute et Dieu exauce.
Ouais, et on est un couple. Avoir des enfants, il y a eu un couple.
En général, c'est
mieux.
C'est comme ça que ça marche.
Ce qu'on peut souvent voir, c'est qu'il y en a un qui va porter plus que l'autre.
Ouais.
Et ça devient compliqué. Mm-hmm. Je veux vous encourager tout de suite. Si vous êtes, peu importe où ce que vous êtes sur la terre, il y a des cultures où est-ce que c'est plus la femme qui s'occupe des enfants, etc. Mais soyez unis ensemble dans ce combat parce que ça devient trop lourd et trop pesant pour une seule personne souvent, surtout quand c'est des défis très compliqués de maladies physiques. Il faut savoir s'aider et se soutenir les uns les autres. Votre enfant a besoin de soutien, mais vous qui combattez, vous avez besoin d'être soutenu aussi et d'être fortifié un avec l'autre. Parce qu'à un moment donné, c'est beau, on a prié, on a lutté, mais ça devient que c'est parfois pesant parce qu'on ne voit pas immédiatement l'exaucement, on ne voit pas tout de suite la percée. Là, ça fait des semaines et des mois parfois, et des fois, c'est même plus longtemps que ça. Et tu dis, mais Seigneur, et c'est là que l'autre vient et est ce second souffle. Soyez unis dans votre couple par rapport à ces batailles, ces combats qui sont là. Ça ne va pas juste se faire forcément au travers d'une personne, ça se fait ensemble. Messieurs, soyez là, soyez présents pour vos enfants, soyez un soutien. Ce qu'un père va apporter, c'est différent de ce qu'une mère apporte. Mm-hmm. Il faut en être conscient. Et ça, c'est vraiment important. Dieu, il veut qu'on soit ensemble. C'est son idée, c'est sa pensée. Le couple est là pour se fortifier et faire face à la vie et aux défis de la vie ensemble.
Mmh. C'est très vrai ce que tu dis. Et même, c'est ça, des fois, il y a peut-être des papas qui vont être plus en retrait, mais parfois aussi, il y a des mamans qui ne vont pas laisser les papas s'impliquer.
Aussi.
Et je pense que dans ce genre de situation, quand il y a des défis particulièrement, admettons des défis liés à l'adolescence peut-être, ouais. des tensions, que vraiment le couple ne forme qu'un, soit vraiment uni, et puis que les parents puissent dire, les mamans particulièrement, je vais en parler à ton père. On va décider ensemble, on va prendre la décision ensemble. Et puis, quitte à faire des fois des petites réunions familiales où le père et la mère se sont entretenus avant, ont pris des décisions. Voici désormais comment ça va se passer dans la maison. Voici les nouvelles règles peut-être qu'on va établir. Voici ce que ta mère et moi, nous avons décidé. Et montrer cette affiche unie, c'est beaucoup plus fort plutôt que de voir que, la fille ou le garçon ont compris que si je vais voir papa, il va toujours me dire oui. Ou si je vais voir maman, elle va toujours me dire oui. Et puis, on essaie de tirer les ficelles comme ça, c'est hyper important de faire front commun dans des temps justement peut-être plus de crise, que les enfants voient, quoi qu'il en soit, que j'aille voir maman ou papa, j'aurai une réponse similaire parce qu'ils sont mis d'accord et ils font front ensemble pour mon éducation et pour me protéger. C'est sécurisant pour un enfant de se dire, papa et maman prennent des décisions pour moi, même si sur le coup, oui, ça peut être agence, particulièrement à l'adolescence où on pense qu'on sait déjà tout faire, mais c'est rassurant en réalité de se dire, y a quelqu'un qui va veiller quand même pour moi, et ensemble, ils sont d'unis d'un commun accord pour prendre des décisions pour moi.
Oui, et je veux juste rajouter un dernier point avant qu'on passe à la rubrique de Frank. Mm-hmm. C'est que justement, quand Frank parle de l'unité, d'importance aussi de veiller, de ne pas laisser notre orgueil prendre la place, dans le sens où des fois, dans les défis de l'enfant, dans le couple, ça va être de c'est ta faute, et puis c'est parce que tu l'avais laissé sortir, c'est parce que tu avais fait ceci, et l'orgueil va nous empêcher même de recevoir cette stratégie.
L'accusation.
Et vraiment, l'accusation et l'orgueil de dire, ben, on voit les fautes de notre enfant, et au lieu de voir que notre enfant est en train de souffrir, c'est comme une réflexion de nous. Ben non, nous, on ne fait pas ça chez nous, mais là, c'est pas toi, papa, c'est pas toi, maman, c'est l'enfant qui vit quelque chose, et vraiment de mettre son orgueil de côté, de chercher la solution où il faut la chercher et de ne pas accuser l'autre, ça va nous aider à faire face aux défis de nos enfants.
Exact. Frank, si tu es prêt, on va enchaîner avec ton pasteur.
Je suis prêt.
Tu es prêt? Comment puis-je aider mon enfant en échec scolaire? C'est la question d'Alexandra du Canada. Top chrono.
Alexandra, on commence. Donc, c'est une réalité. Ça arrive que ce n'est pas facile dans la vie d'un enfant à l'école. Ça arrive dans la vie de plusieurs enfants, que vous soyez chrétien ou pas. Peut-être que vous avez fait face à cette réalité et ce n'est pas toujours agréable. Je me rappelle moi-même personnellement une année où est-ce que j'avais un professeur qui m'aidait dans des temps comme en surplus parce que j'avais besoin d'aide en mathématiques. Et un jour, je m'étais effondré en pleurant. Et je ne suis pas capable. Et je ne comprenais pas. Et je pleurais. Et ça, aujourd'hui, je me rappelle, j'étais assis où? C'était quel endroit? C'est parce que ce n'est pas agréable. C'est très difficile à vivre pour un enfant, autant pour les parents aussi. Donc voilà, je sais qu'est-ce que c'est. Et je connais d'autres personnes qui ont passé par là aussi. On doit maintenir le cap entre la foi et la sagesse. Donc, on parle des hommes et des femmes de foi, mais il y a un côté de sagesse naturelle aussi à y avoir. On doit savoir utiliser les choses qui sont dans le naturel, que l'école peut parfois fournir ou aider avec. C'est-à-dire, il peut y avoir des professeurs, justement, des personnes qui vont pouvoir aider en plus l'enfant. Il ne faut pas nier ce qu'on peut recevoir naturellement parlant, tout en étant dans la foi. Un ne va pas annuler l'autre, mais on se tient dans la foi, croyant pour la percée. Mais entre-temps, l'enfant, s'il vit des échecs sans arrêt, parce que la percée n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas mieux pour lui non plus. Mm-hmm. Et puis, en tant que parent, on doit toujours vouloir le meilleur pour nos enfants. Vos enfants, faites-y attention. Autant quand ça fait face à la maladie, on ne fait pas des trucs de fou par rapport à la foi. On ne va pas plus voir les médecins parce que... Non. Attends un peu, tu as un enfant, là. Tu es responsable d'un enfant. Mm-hmm. Tu fais attention à ton enfant et la foi ne va pas nier ou ne va pas être contre ce que tu peux faire naturellement. Premier point. Deuxièmement, je veux qu'en tant que parent, on puisse être conscient qu'il y a un prix à payer quand on a un enfant qui a de la difficulté à l'école par rapport à nos soirées. Mm-hmm. Tu vas devoir prendre cette étape-là ou ce pas-là de dire, bien, les soirs, il va y avoir des moments où est-ce que mon autre enfant, ça va bien, mais lui, je dois passer 30 minutes, 45 minutes, tu ne veux pas passer 3 heures non plus, épuiser l'enfant, mais il y a des moments où est-ce que tu vas devoir être là régulièrement les soirs. Il y a un prix à payer, je le dis comme ça, c'est-à-dire que, ben on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et l'enfant va devoir le comprendre aussi en parlant, en discutant avec lui, lui faire comprendre que les soirs, on a du travail à faire parce qu'à l'école, tu as de l'aide, mais du 1-1, c'est tellement plus efficace souvent pour un enfant. C'est super important de le comprendre aussi. On doit bien se contrôler quand l'enfant a essayé du mieux qu'il pouvait. Donc ça, on reçoit un test de mathématiques, de français, peu importe, et on voit qu'il y a un gros échec. On pourrait se dire, mais pourquoi encore? Et en tant que parent, on doit vraiment faire attention. Si l'enfant est dans un état de paresse sans arrêt, il ne veut pas s'aider, il ne se force pas, il est continuellement en train de repousser l'aide qu'il pourrait avoir, etc., ben là, il faut y avoir de la rigidité. Il faut, en tant que parent, être ferme, expliquer les vraies choses. Mais quand un enfant est là et qu'il essaie de tout son cœur et qu'il ramène quand même un échec, on doit le soutenir et non pas l'écraser parce que ça ne va rien faire de plus. Rien. Et vous connaissez vos enfants, s'ils travaillent fort et puis ça ne marche pas, bien, qu'est-ce que tu veux? On le soutient et on le fortifie, on dit ça va aller mieux la prochaine fois. Écoute, qu'est-ce que ça va faire de plus dans sa vie de se faire crier dessus un soir à cause d'un échec? Ça ne va rien faire de plus, ça va l'écraser davantage, il va détester l'école encore plus. Ouais. On doit savoir donner des pauses ou des soirées libres si on sent trop de frustration, de découragement. J'ai dit qu'il va y avoir des soirs où est-ce qu'on va devoir travailler, mais il va y avoir des soirs aussi où est-ce qu'on sent que là, ça fait plusieurs soirs, il y a un test qui arrive, il y a un stress, une pression. Il faut à un moment donné ralentir et dire, OK, il sait qu'il y a un test, un examen qui arrive, mais là, maintenant, on doit prendre un temps. Et ce soir, écoute, on va juste jouer, on va aller dehors, on va faire tel truc. Et là, ça le fait respirer. À un moment donné, être tellement dans tes études constamment, quand tu as 6, 7, 8, 9 ans, c'est pas mieux. Il faut savoir doser ces moments-là. C'est super important. On doit faire comprendre que son identité ne se trouve pas dans ses bonnes notes d'école. Ce n'est pas à cause qu'il a des bonnes notes qu'il est quelqu'un de bien dans la vie. Le système scolaire qui peut être là est assez, entre guillemets, universel, mais ce n'est pas tout le monde qui est forts mathématiquement parlant ou autre chose. Ils ont toutes sortes de capacités, de dons en eux. Moi, je n'étais pas extrêmement bon à l'école. J'y arrivais au bout, mais ça n'a pas été facile. Mais voilà, ce n'était pas fait pour moi classique comme ça. Et puis, il faut le comprendre. Lui faire comprendre qu'il n'est pas stupide, parce que c'est la pensée qui peut revenir. Je suis stupide, je ne suis pas capable, je ne suis pas bon. Il faut vraiment briser ces mensonges dans la vie de l'enfant. Prochain point, prier pour eux et pour nous aussi. Parce que, comme j'ai dit, parfois, ça devient lourd. Donc, on prie pour l'enfant qui est sa percée. On prie pour nous qu'on soit capable de le soutenir, de le porter, parce que ce n'est pas toujours évident. Ça peut être frustrant, décourageant, fatigant, éprouvant émotionnellement. Quand c'est année après année, comme ça, de la difficulté, il faut savoir aussi s'en remettre à Dieu. Trouver un verset qui parle à l'enfant sur lequel il ou elle peut s'appuyer. Nous, c'est Josué 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ma femme a vécu quelque chose de fort avec notre fils, le plus vieux, pendant qu'il travaillait le soir justement sur des problèmes qu'il avait par rapport, je crois, c'était des mathématiques. Et ce verset-là est venu dans le cœur de ma femme et ils l'ont déclaré ensemble. Ils ont lu la présence de Dieu est venue fortement et c'est un verset clé pour mon enfant maintenant. Ça, c'est les quelques points, Alexandra du Canada, que j'ai pour toi. Alléluia! Marathon fait.
Bravo. C'est génial.
Ça méritait une rubrique.
Ça mériterait une rubrique famille. On est obligé de se soumettre. Non, c'est très vrai. C'était excellent, Frank. Merci beaucoup. On va enchaîner, Nadine, avec notre invité, Jonathan Berceau, dans la rubrique Culture et Médias.
Alors, on reçoit Jonathan Berceau pour la rubrique Culture et Médias qui va nous parler de son nouveau livre. Bonjour, Jonathan.
Bonjour Nadine, bonjour Evelyne, bonjour Franck.
Hello Jonathan.
Hello, bonjour.
Jonathan, bienvenue.
Quelle joie de te voir. Jonathan, aujourd'hui tu viens nous présenter ton nouveau livre, La Bonne Samaritaine. Parle-nous de ton nouveau livre.
Tout à fait. En fait, ça fait déjà depuis plusieurs années que ma femme me presse ou me harcèle en disant « il faut que tu écrives ». Bon, alors avec la COVID-19, j'ai profité un petit peu de ce temps de recul et de confinement pour pouvoir me lancer dans un premier livre, et donc qui est le début d'une collection, une collection intitulée « Comprends-tu ce que tu lis ?», donc se lancer un peu plus dans l'exégèse et arriver dans l'approfondissement des Écritures. Et là, en l'occurrence, ce livre-là, c'est « La bonne Samaritaine ».
Et ce livre s'adresse à qui exactement, Jonathan ?
À tout le monde. À tous ceux qui aiment la Bible.
Okay.
En fait, à ceux qui veulent approfondir le texte biblique, c'est un petit peu, je rappelle la collection « Comprends-tu ce que tu lis ?». Vous savez, le texte est tellement riche, la Bible est tellement riche, ça fait des années que je l'étudie et je peux vous dire que même encore, ça m'arrive de lire un texte et de dire « waouh, j'avais jamais vu ça ». En fait, la bonne Samaritaine, c'est quelque chose d'assez inédit. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans un commentaire, que j'ai appris à l'université ou que j'ai entendu dans une conférence ou dans une prédication. Mais c'était en 2017, alors que j'étais au Togo, à la faculté avancée de théologie pour enseigner, que là, moi-même, je lisais le texte de Jean chapitre 4, un texte que l'on connaît bien, de cette rencontre de cette femme avec Jésus au bord du puits. Et tout d'un coup, il y a eu comme une révélation, si je peux dire les choses ainsi, une illumination en disant « waouh ! » Et j'ai vu dans ce texte quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui même est inédit puisque je ne crois pas que d'autres ne l'aient encore vu. C'est-à-dire, j'ai vu dans ce texte de la femme samaritaine au puits de Sichar, au puits de Jacob, eh bien, la manière de Jean de raconter l'histoire du bon samaritain. Donc, dans le livre, je connecte Jean chapitre 4 à Luc chapitre 10, à l'histoire du bon samaritain, et de dire, en fait, c'est une bonne samaritaine, alors c'est comme le bon samaritain, mais en plus, c'est une femme. Dans l'histoire du bon samaritain, le bon samaritain fait ce que les hommes religieux auraient dû faire, mais ils sont passés outre. Ils auraient dû prendre soin de cet homme blessé, mais ils n'ont rien fait. Dans l'histoire de la bonne samaritaine, cette femme fait ce que les disciples auraient dû faire, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle à tout un village, et cette femme va le faire, et il va en résulter tout un village qui s'approche de Jésus et qui vont dire en conclusion, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde.
Wow, ça a l'air
super intéressant.
Ça a l'air très intéressant. Mm-hmm. Et donc,
il faudra lire.
faudra lire. Et justement, des gens qui regardent l'émission, qui disent, ah oui, j'aimerais bien lire, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus dans ma vie? Qu'est-ce que tu leur dis?
Alors déjà, c'est une ouverture un petit peu sur l'herméneutique, comprendre comprendre la Bible. Donc, ouvrir un petit peu une réflexion pour dire, quand je suis devant un texte, pas lire simplement l'histoire, la carrée en disant, bon, la femme, elle est là, mais voir ce que Jean veut nous dire dans cette histoire-là ou ce que Jésus veut nous enseigner dans telle parabole. Et donc, c'est quelque part, en lisant ce livre, ça va vous aider à mieux comprendre la Bible. Je livre plusieurs pépites un petit peu dans ce livre-là, par-ci, par-là. Ce n'est pas un livre fastidieux, c'est agréable à lire, c'est pour tout le monde. Okay. Ce n'est pas pour des experts ou des exégètes ou des universitaires, mais c'est pour toute personne qui aime lire la Bible. Ma femme est passée derrière, elle a dit « ça, tu enlèves ce mot, c'est trop compliqué ». Donc, on a mis un langage un peu plus simple. Et donc, c'est un livre vraiment qui est pour tous ceux qui aiment la Bible et qui veulent la comprendre et aller plus loin dans la lecture de la parole de Dieu.
Amen. On aime la Bible, on veut la comprendre, on veut aller plus loin dans la lecture de la parole de Dieu. Alors, ce livre est disponible...
Alors, le livre est pour toi, Nadine.
Oh, ben, super. Et il est disponible sur boutiqueinspiration.com. Et tu as... Vas-y, tu voulais dire un dernier mot?
C'est ça. Il va être disponible, donc il est édité par les éditions Inspiration. Il va être sur la boutique Inspiration, mais il va être aussi dans toutes les grandes librairies. Vous pourrez le retrouver sur le site web de la FNAC ou de Archambault, enfin au Québec, sur toutes les grandes librairies, aussi en version numérique.
D'accord. Mmh. Ben, merci super. Beaucoup, Jonathan Berceau.
C'est très intéressant.
Très, très intéressant et très agréable de te revoir.
Merci
beaucoup pour l'invitation et bonne lecture.
Merci. Super.
Ouais.
Bon, bah, c'était chouette de revoir Jonathan avec ouais. un bel ouvrage en plus. Comme quoi, le confinement a eu du bon pour pas mal de monde.
Ça, je te dis. Et puis, en tout cas, moi, je trouve ça excellent qu'il fasse. Il est tellement un excellent enseignant.
Ah, bah,
et
oui.
la quantité de trucs qu'il a à dire dans les prochains livres, j'imagine.
Tout à fait.
Ça va être.
C'est génial. C'est génial. On vous le recommande en tout cas. Avant de terminer cette émission, j'aimerais vous parler de la sortie d'Inside, le deuxième épisode d'Inside. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, c'est formidable, mais si vous n'avez pas vu, vous devez le voir. Un très, très bel épisode, c'est l'histoire de Sabrina qu'on raconte cette fois. Et je vous laisse découvrir rapidement la petite bande-annonce qu'on a faite qui vous dévoile juste quelques miettes de l'histoire, mais qui donne vraiment envie.
Au début, tu aimes la drogue, jusqu'à temps que tu comprends que c'est un amour qui te dévore de l'intérieur.
L'addiction est difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécue. Nous pouvons facilement croire que la force de la volonté suffit pour s'en sortir. Mais quand la drogue vous prend, quand elle vous fait croire que vous avez le contrôle, que vous pouvez arrêter quand vous voulez, vous réalisez alors qu'elle ne vous lâchera plus. Sabrina, elle, a vécu l'enfer de cette aliénation. À tel point que la seule porte de sortie qu'elle voyait était de se donner la mort pour mettre fin à son calvaire.
L'histoire de Sabrina est exceptionnelle. Frank, tu as travaillé sur le projet avec moi.
J'ai travaillé sur le projet et c'est une histoire, je le dis comme ça, de fou. C'est une telle expérience de vie, en tout cas, et de voir ce que Dieu fait, c'est extraordinairement grand.
Oui, vraiment.
Énorme. Vraiment. Et il faut vraiment voir cette histoire. Ce que Dieu a fait, c'est ça.
Vraiment, c'est une très belle histoire. Et puis, on voit beaucoup sa maman dans cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le dis. Et en fait, ça se rapporte un petit peu aussi à notre thème. Parce que justement, en fait, cette maman a vu sa fille descendre de plus en plus bas. Et elle a été là pour elle dans les moments difficiles. Mais on voit aussi qu'elle a vu un changement exceptionnel dans la vie de sa fille qui elle-même va la questionner sur l'existence de Dieu. Et je ne vous en dis pas plus. Mais c'est un très très bel épisode qu'on vous recommande. Il est donc disponible sur notre chaîne YouTube. C'est le deuxième épisode d'Inside, c'est l'histoire de Sabrina. Je vous invite à aller le regarder. Nous avons fait un after, donc c'est la petite nouveauté pour Inside. Désormais, lors de chaque sortie d'Inside, il y aura un épisode after sur le grand plateau avec Yanis et un expert qui était là présent. En l'occurrence, c'était Denis Morissette qui était avec nous cette fois-ci. Et je vous invite à pouvoir découvrir aussi sur YouTube. Vous tapez simplement Inside et l'after et vous allez le trouver sur notre chaîne. Voilà pour les informations que je voulais vous communiquer. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et nous aurons plusieurs témoignages de partenaires à vous partager. C'est une émission un petit peu dédiée à nos partenaires qu'on aura demain. Donc je vous invite à nous suivre. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Peuple de Dieu, il y a une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle est que Dieu a tant tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Et là, ça ne fait vraiment pas les filles. Vraiment, je ne suis pas capable de prêcher dans des conditions comme ça. J'entends les grenouilles à l'extérieur. Il y a un tracteur dans l'auditorium et les murs ne sont pas fermés. Ça ne le fait pas, c'est horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va aller, car un peuple nombreux se lève dans la francophonie, les 3500 héros de MCTV. On veut vous remercier de tout notre cœur, à vous tous qui faites partie de ces héros. Et je veux aussi vous encourager, à vous tous qui ne faites pas encore partie de cette grande famille de partenaires, à pouvoir le devenir pour non seulement nous aider à achever la construction du Centre MCI, mais aussi de l'équiper pour qu'on puisse vivre des conférences ici, localement, mais qui seront retransmises à l'international, dans le monde entier, pour qu'un maximum de personnes soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Notre cœur est de voir un réveil dans le monde francophone. Et avec l'aide de Dieu et avec votre soutien, nous allons y arriver. Nous croyons à ce que Dieu peut sauver un maximum de gens avant que Jésus revienne. Donc, soyez bénis. On vous aime. On vous remercie de tout notre cœur. Et à très bientôt sur EMCI-TV.
Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI-TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.